Depuis cette semaine que Jérusalem habite notre histoire, à nous autres Français. Rick Azaray chante « Un mur à Jérusalem » en 1968, et qu'elle soit israélienne ne l'empêche pas d'avoir historiquement raison. Et d'ailleurs, son parolier est Pierre Delanoë, catholique qui n'a pas toujours caché son chapelet dans sa poche. Le mur de Jérusalem passe par la France. Juifs, chrétiens ou musulmans de ce pays, nous vivons donc dans le prolongement d'un mur à Jérusalem, ce qui explique sans doute que nos dirigeants, eux aussi, soient un peu à cran quand ils s'y rendent.
What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want?
22 octobre 1996, Jacques Chirac en guirlande, un policier israélien. Des mots, des images qui rentrent dans l'histoire et auxquels a fait écho cette semaine une colère du président Emmanuel Macron à Jérusalem dans des circonstances à peu près comparables.
I can tell you, okay? So everybody respects the rule. Please.
Expert en géopolitique pour comprendre que lorsqu'un président de la République française s'énerve contre un policier israélien à Jérusalem, il est accompagné d'un élan de sympathie du monde arabe qui se repasse alors cette chanson de Férouz qui célèbre la splendeur de Jérusalem, Al-Quds en arabe. Mais comme un symbole à l'intérieur du symbole, cet hymne qui fait frissonner le monde musulman est chanté par une chrétienne. Car Férouz est une chrétienne arabophone du Liban. Et Jérusalem est peut-être l'enjeu géopolitique le plus complexe dont la chanson puisse rendre compte avec fidélité, avec facilité, avec inspiration, avec élan.
Quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem, quand sur lui je me suis penché.
Adamo et Inch'Allah, chanson qui, malgré ses intentions pacifistes, lui a valu de pesants déboires dans certains pays arabes. Puis l'ivoirien Alpha Blondie, père musulman, mère chrétienne, longtemps rasta, plusieurs fois converti à plusieurs religions, un citoyen de la Jérusalem éternelle. Et même lorsque l'on ne cache pas sa foi, il y a quelque chose de particulier au discours sur Jérusalem.
Noël, à Jérusalem, près d'un mur que l'on croyait perdu.
El-Quds, Jérusalem, terre sacrifiée, terre sacrée.
D'Afrique du Nord, Enrico Macias évoque la paix sur la ville sainte et il choisit pour cela le symbole de Noël qui parle directement aux Français en majorité chrétiens. Ashka, ensuite, musulman né à Roubaix, paraphrase le texte de la Bible pour chanter Al-Quds.
Cette ville est le cœur, Moïse, Jésus, Mohammed, enfin la paix en sa demeure. C'est une marche sur Jérusalem, comme mon monde saint plus à l'aise. Une myriade de voix brise le silence et nos futurs s'allègent. Les sourires reprennent ces rues que la crainte et la peur balayent. Laisse mourir, 2000 ans tachés de mer.
Et ici, c'est un autre voyage vers la Terre Sainte. Le titre « Marche sur Jérusalem », avec les mots d'Akhenaton, musulman français d'origine italienne, qui rêve de paix sur la ville sacrée en compagnie d'Idir, kabyle algérien de France. Une éloquence évidente dans laquelle, une fois de plus, la chanson est certainement beaucoup plus raisonnable que la parole politique.
Bertrand Tical, à tout à l'heure sur France Info.
Ces chansons qui font l'actu. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique.
Donc que les pluies seront les plus marquées avec le développement de fortes averses sous orage, notamment sur l'Hérault et le Gard. En journée, ces pluies soutenues et neigeuses à partir de 1200 mètres vont s'éloigner vers la Provence, les Alpes du Sud, puis vers l'Italie en fin de journée. Ailleurs, un peu comme hier, il sera difficile de trouver des éclaircies durables sous un ciel souvent bien chargé, avec parfois un peu de pluie et en prime des brouillards assez fréquents au nord de la Loire. Cette grisaille sera souvent d'évolution très lente. Mais toutefois, les gelées seront quand même beaucoup plus rares et plus limitées que la veille sur les régions de la moitié nord. Cet après-midi, il fera 7 à 10 degrés au nord de la Loire et 14 à 16 sur les régions méridionales.
Merci Jean-Luc. De l'épidémie de pneumonie virale s'est encore alourdie ces dernières heures en Chine. Il est désormais de 56 morts et près de 2000 personnes contaminées par le coronavirus. Un premier mort est signalé à Shanghai. Le point sur place avec l'un des correspondants de France Info en Chine, Simon Leplâtre.
Ces dernières 24 heures, le nombre de cas répertoriés et le nombre de décès ont triplé en Chine. Autant dire que la trajectoire de la contagion est très inquiétante et cela se ressent ici. J'ai évité le mot ces derniers jours, mais on peut maintenant vraiment parler de psychose. Hier, dans un magasin, quelqu'un m'a dit « Ah, vous devriez porter un masque, sinon vous faites peur aux gens ». La Chine se barricade, les villes, les villages et même les résidences commencent à filtrer les entrées. Dans certains complexes, les livreurs de repas sont priés de laisser leurs colis à l'entrée pour éviter les contacts. À Pékin, les bus qui connectent la ville avec le reste du pays ont été supprimés. Certains villages se barricadent littéralement et refusent l'entrée aux gens de l'extérieur. Alors hier, le comité central du Parti communiste a tenu une réunion exceptionnelle. Cela veut dire que c'est maintenant Pékin qui veut gérer directement les événements, mais cela veut aussi dire que c'est une crise particulièrement grave. Shanghai, Simon Leplâtre.
Assurant pour les 3 patients hospitalisés, 1 à Bordeaux et 2 à Paris. Selon le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, les 3 personnes vont très bien. L'évolution est tout à fait rassurante. Tous les 3 avaient séjourné à Wuhan, le foyer de l'épidémie, en Chine. Et parmi les mesures prises pour contenir la propagation du virus en France, une équipe médicale d'accueil est mise en place aujourd'hui à Roissy pour prendre en charge au plus vite les personnes qui présenteraient des symptômes d'une infection par le coronavirus. En tout cas, depuis que les 3 premiers cas ont été signalés en France avant-hier soir, les masques de protection s'arrachent dans les pharmacies. C'est même la rupture de stock à Paris, ce que confirme Martial Fraisse, président honoraire du Conseil de l'Ordre des pharmaciens en Île-de-France.
Les personnes d'origine chinoise sont inquiètes et même font des stocks pour les envoyer à leur famille au cas où ils n'arriveraient pas à en trouver sur place. Donc c'est plus cette cause-là qui provoque une pénurie, mais qui ne durera que quelques jours. Nos fournisseurs nous ayons assuré que courant de la semaine prochaine, on aurait à nouveau ces masques disponibles. Pour le moment, on trouve encore facilement des masques chirurgicaux, mais le masque chirurgical est destiné plutôt au port d'une personne malade. Pour le moment, évidemment, comme il n'y avait pas de stock établi, la logistique étant ce qu'elle est, les stocks disponibles ne devront être acheminés que courant de la semaine prochaine.
Martial Fraisse de France. Un entraîneur de foot soupçonné de viol sur mineur vient d'être écroué. Un homme qui entraînait des jeunes au sein d'un club des Yvelines à Magny-en-Ville. Il a été mis en examen et écroué vendredi, soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur mineur. Un quadragénaire, également tuteur d'apprenti dans le cadre de son métier dans son entreprise. Il a, selon le parquet, profité de ces 2 situations vis-à-vis des jeunes. Il avait déjà été condamné pour des faits correctionnels d'agression sexuelle en 2008. Le maire de Montpellier, Philippe Sorel, annonce qu'il porte plainte contre la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, pour prise illégale d'intérêt. Il met en cause la décision ministérielle de choisir Toulouse plutôt que Montpellier pour installer la future cour administrative d'appel. Le maire de Montpellier parle d'un cadeau politique, sachant que Nicole Belloubet a été par le passé adjointe au maire de Toulouse. L'Italie a les yeux braqués aujourd'hui sur l'Émilie-Romagne, cette région du nord du pays dont l'élection régionale a valeur de test national. La fragile coalition au pouvoir redoute qu'une victoire de l'extrême droite dans ce bastion de la gauche n'entraîne la chute du gouvernement.
Merci Jean-Christophe. En Australie, le début des 8e de finale de l'Open du même nom sur le court actuellement. Fabrice Abgrane, bonjour.
Bonjour.
Sur le court, alors pas vous encore que vous avez de beaux restes, hein, mais le numéro 2 mondial, Novak Djokovic.
Novak Djokovic, en effet, 7 fois vainqueur ici à l'Open d'Australie. C'est lui qui détient le record de victoire à Melbourne. Tenant du titre, Novak Djokovic. Il est opposé à Diego Schwartzman, l'Argentin, depuis 1h41. Et pour l'instant, avantage sans surprise à Novak Djokovic. Il a remporté les 2 premiers sets, 6-3, 6-4. Et il a fait le break dans la 3e manche, 3 jeux à 2. Il est au service actuellement Novak Djokovic face à Diego Schwartzman, l'un des plus petits joueurs du circuit. Il ne mesure qu'1m69. Le petit lutin tente bien de faire ce qu'il peut face à Novak Djokovic, mais il y a une classe d'écart entre les deux joueurs.
En ce moment aussi, Fabrice, 2 huitièmes de finale, hein, du tableau féminin avec 2 attractions.
deux attractions, Cory Gauff et 11 Jabeur. 11 Jabeur, tout d'abord, la Tunisienne, actuellement 78e joueuse mondiale. C'est une Tunisienne, c'est la première joueuse originaire du Maghreb à atteindre les 8e de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Elle est opposée à Qiang Wang, la Chinoise qui a battu au tour précédent Serena Williams. Elle est entraînée par un Français, Thomas Drouet. Et pour l'instant, match extrêmement serré. 6 jeux partout entre les deux joueuses. Des deux joueuses actuellement dans le tie-break donc de la première manche. Et Cory Gauff, elle, c'est une américaine surnommée Coco, Coco Gauff. Elle n'est âgée que de 15 ans et 8 mois. C'est un phénomène de précocité. Elle est opposée à sa compatriote Sofia Kenin. Et pour l'instant, 1-7 partout entre les deux joueuses. 2-0 toutefois pour Sofia Kenin dans le troisième et dernier set. Cory Gauff donc peut devenir aujourd'hui la plus jeune joueuse à atteindre les quarts de finale à l'Open d'Australie depuis une certaine, vous en souvenez, Martina Hingis. C'était en 1996, Cory Gauff qui a déjà battu dans ce tournoi Venus Williams. C'est Naomi Osaka, la tenante du titre. Donc match pour l'instant extrêmement équilibré entre les deux joueuses.
Alors lui, il n'a pas 15 ans, il est même plutôt vers la fin de sa carrière, même si ça vous fait mal quand on le dit, Fabrice. Roger Federer est attendu plus tard dans la matinée.
Oui, Roger Federer, il affrontera le Hongrois Marton Fucsovics, 67e joueur mondial, un joueur qu'il a toujours battu en deux confrontations. Le match aura lieu aux alentours de 10h30 heure française.
Donnez-nous des nouvelles pour terminer, Fabrice, de notre dernier candidat français, Gaël Monfils. Il joue la nuit prochaine son 8e de finale.
Il joue en effet, il jouera contre Dominic Thiem, l'Autrichien, l'actuel numéro 5 mondial, double finaliste à Roland-Garros, un joueur qui n'a jamais battu en 5 confrontations. Bien, si on veut voir ce match cette nuit à Paris, eh bien, il faudra se lever tôt ou pas se coucher du tout, puisque le match est programmé sur le central aux alentours de 3h du matin.
Et vous nous ferez vivre ça demain, on l'espère, si ce n'est pas fini en direct. Merci beaucoup. Fabrice Abgral à Melbourne, toujours du sport, la plus grande course de trot de l'année, aussi la plus prestigieuse. Il s'agit du Grand Prix d'Amérique aujourd'hui sur la piste de l'hippodrome de Vincennes, une institution du monde hippique. La première édition, c'était en 1920. Et pour plonger dans l'ambiance particulière de cette course, on va vous la faire vivre de l'intérieur, à bord d'un sulky, voiture à deux roues utilisée dans le trot attelé. C'est un reportage en immersion donc de Fanny Lechevestrier.
Combinaison avec protection dorsale, casque sur la tête en cas de chute, large lunettes pour se protéger du mâche-fer renvoyé par les chevaux. Nous voilà lancés à l'assaut de la piste de l'hippodrome de Vincennes, la même où tout à l'heure les 18 meilleurs trotteurs de la planète se disputeront le Grand Prix d'Amérique. Pour nous guider, le driver professionnel Emmanuel Devenne et sa jument Fiona Gaye.
Si vraiment vous appréhendez, vous me le dites, on calme le jeu, d'accord ?
Mais nous voici déjà au départ, prêts à en découdre avec cet autre attelage.
Et c'est parti ! C'est parti sur un bon tempo.
Et dès la première ligne droite, les sensations sont assez grisantes avec Fiona qui poussera des pointes de vitesse entre 40 et 45 km/h. Mais le plus impressionnant, c'est la proximité avec les autres sulky. Entendre les sabots claquer la piste, voir les naseaux du cheval voisin se contracter de plus en plus vite à la recherche de toujours plus d'air. Et encore, bien sûr, dans une course professionnelle, tout est plus intense, explique Emmanuel Devenne.
Encore, ça va. Vous avez des courses où il y a vraiment des combats. Il y a vraiment de la virilité qui sort, même un peu de la bêtise des fois. Non, ça, des fois c'est un peu chaud.
Impressionnant aussi la relation entre le driver et sa jument. Pas besoin d'utiliser une cravache à tout bout de champ. Un maniement des rênes en douceur suffit à guider Fiona. Les deux ont appris à se connaître par cœur.
Oui, c'est un art, c'est un métier. Quoi. Il faut apprendre, il faut réussir à ressentir les choses. Certains chevaux sont plus sensibles que d'autres. Elle réagit vite parce que si vous voulez, elle a déjà quelques courses dans les jambes. Elle connaît son métier. Ça demande beaucoup de temps avec ces petits chevaux-là parce qu'il faut s'en occuper régulièrement. C'est comme un athlète, quoi. C'est tous les jours des balades. C'est tous les trois jours un travail poussé pour travailler le cœur. Après, c'est beaucoup de balades.
Pour au final, la victoire qui nous échappe d'un rien.
Antoine prend l'avantage et on finit vite. C'est Antoine qui s'impose. La deuxième place, elle est pour Fanny Lechevestrier qui a longtemps fait illusion.
Et résultats ô combien plus importants. Tout à l'heure, ils seront 18 attelages à rêver de remporter la 100e édition du Grand Prix d'Amérique. Devant 40 000 spectateurs et pour plus de 18 millions d'euros de paris générés.
Merci Fanny, et c'est la de déchets et ainsi améliorer un tout petit peu l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique. On voit ça donc dans un instant.
Par la mairie du 10e arrondissement de Paris, le bilan est présenté aujourd'hui sur la base du volontariat. Les habitants de la rue de Paradis ont été accompagnés dans une démarche de réduction de déchets, de consommation responsable, opération de nettoyage des trottoirs, atelier pour apprendre à diminuer la quantité de poubelles produites quotidiennement, fabriquer soi-même ses produits cosmétiques et d'entretien. Bref, plein de petites actions pour tendre vers ce zéro déchet. Et le résultat, vous l'avez constaté sur place, Adrien Toffolet est très encourageant. On écoute votre reportage, on en parle avec notre invité.
Pour Géraldine, le zéro déchet, c'est au quotidien.
Des choses super simples et super faciles et rapides à mettre en place.
Faut le montrer. Hein.
Oui,
tout est optimisé, de la cuisine à la salle de bain.
Moi, je fabrique maintenant mes produits d'hygiène du quotidien, ma crème pour la figure.
Du réutilisable, du compostable, moins de plastique et du fait maison partout où c'est possible. Si bien que son logement a servi, comme pour des visites d'appartements témoins, à convaincre les habitants du quartier.
Ils étaient assez convaincus qu'on pouvait faire des choses sans que ça prenne trop de temps ou sans que ce soit trop compliqué ou sans que ça change des habitudes vraiment et qui, il faut le répéter quand même, coûte moins cher.
Des arguments qui ont fait mouche chez beaucoup de ses voisins. Résultat, 25 à 30% de volume de déchets en moins en un an d'expérimentation et puis même mobilisation des restaurateurs.
C'est un projet qui semblait difficile à la base. On a fait des petits efforts.
Christophe sert une centaine de couverts par jour sur place et emportés.
Eux-mêmes, ils disent « Non, je prends pas de sac, non, je prends pas de couvert, non, je prends pas de paille, surtout pas. » Même si on leur met directement une paille ou un couvert, là, tout de suite, ils vont dire « Ah non, non, surtout pas, j'en veux pas. »
Bilan, 400 sacs en papier économisés par mois, presque autant de couverts jetables et en moyenne 70 kg de déchets organiques qui peuvent finir au compost toutes les semaines. Et résultat inattendu, au-delà de la rue même, des habitants de tout l'arrondissement qui se sont greffés au projet, comme l'a constaté Benjamin, membre du conseil de quartier.
On voit un petit peu plus d'enfants venir avec leurs gourdes en plastique. On voit des parents qui échangent sur leur méthode pour fabriquer leur lessive. On n'est pas sur du radical, enfin j'insiste là-dessus, mais on est sur des gens qui font un peu plus attention.
Pas de zéro déchet. Objectif inatteignable, mais beaucoup moins de déchets, ce qui satisfait amplement la mairie à l'origine de l'expérimentation. Léa Bazin est adjointe en charge du projet.
Cette démarche-là, on va pouvoir évidemment en tirer des enseignements qui sont applicables à tout le 10e arrondissement et à tout Paris, mais en fait, on va surtout devoir se donner les moyens de l'essaimer, c'est-à-dire d'avoir dans chaque quartier des mobilisations comme ça, très très locales, avec des soutiens qui sont là pour accompagner, pour répondre aux questions, pour donner des outils.
Forte de son succès, l'expérience sera renouvelée prochainement dans des dizaines d'autres quartiers de Paris.
Adrien Toffer.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous sur France Info, directrice de l'association Zero Waste France, traduction Zéro Déchet. Donc, si on se fie à ce reportage, les résultats sont plutôt encourageants. Vous confirmez, vous approuvez?
Oui, les résultats sont encourageants parce que c'est une initiative mobilisatrice. C'est une initiative qui est à la fois de la mairie et de nos groupes locaux. Et on voit que cette alliance entre des élus locaux et le monde associatif peut permettre de vraiment toucher les habitants, les commerçants, les entreprises qui sont dans le quartier. Donc, je trouve ça encourageant, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'autres choses à mettre en œuvre en fait, pour que l'ensemble de la population puisse passer au zéro déchet. Parce que là, on parle beaucoup, on le voit dans ce sujet, dans les initiatives qui ont été prises en exemple, on voit l'effort que chacun peut faire à titre individuel. Mmh. Mais il y a aussi en face des choses à mettre en place, par exemple, du côté des collectivités locales, la mise en place d'une collecte des biodéchets ou d'une solution pour ces biodéchets, puisqu'on parlait de compost dans le sujet, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Alors, est-ce que c'est vraiment probant de s'en tenir comme ça? C'est une expérience, évidemment, mais de ne s'en tenir qu'à une seule rue et surtout de s'appuyer sur le volontariat, sachant que les gens qui sont volontaires, donc vont faire forcément un effort, ce n'est pas que psychologique, c'est des gens qui sont déjà sensibilisés à ces problématiques. Est-ce que par rapport à l'urgence que de nombreux experts décrivent en termes de réchauffement climatique et de situation environnementale de la planète, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'une meilleure situation serait de contraindre les gens et ne pas s'appuyer sur le volontariat, même si encore une fois, là on est dans une démarche expérimentale?
Bah, là, on voit dans cette démarche quand même qu'on s'appuie sur le volontariat, mais pas uniquement des personnes qui étaient déjà engagées. Au contraire, l'idée était bien d'élargir, d'élargir le cercle et de toucher des gens qui ne se préoccupaient pas forcément de leurs déchets ou qui ne voyaient pas forcément comment ils pouvaient agir et de leur montrer qu'il y avait quelques actions à mettre en place et qui sont à la portée de tout le monde. Mais à nouveau, effectivement, on ne peut pas se contenter de ces démarches volontaires et surtout, elles ont leurs limites. C'est-à-dire que un individu tout seul, une famille toute seule va pouvoir mettre en place un certain nombre de choses, mais à un moment, il va y avoir certaines limites qu'elle ne pourra pas dépasser parce qu'il n'y a pas l'offre de produits en vrac, par exemple, pour acheter sans emballage, ou parce que la collectivité n'a pas forcément mis en place les points de tri, les points de collecte des biodéchets qui sont nécessaires pour pouvoir transformer les déchets alimentaires en compost, par exemple. Donc, ça, voilà, c'est une brique parmi d'autres d'une démarche zéro déchet qu'on peut adopter sur un territoire. Et comme on approche des élections municipales, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important parce que c'est vraiment un sujet sur lequel les élus locaux ont une grande marge de manœuvre. Pardon. Et donc, je pense qu'il faut les sensibiliser justement à l'approche de cette échéance électorale. Au fait que l'urgence... Justement, l'urgence écologique exige que ce soit vraiment dans le prochain mandat que se mettent en place les grandes politiques dont on sait qu'elles fonctionnent en fait au niveau local. Et pour en citer une autre, peut-être, qui est peut-être un peu plus du coup engageante encore vis-à-vis de la population, c'est la tarification incitative. Voilà, qui est un moyen qui a fait ses preuves dans de nombreuses collectivités en France pour réduire la quantité de déchets produits et améliorer le tri par ailleurs.
Vous pensez, vous aussi, que ce sont les citoyens, c'est ce qu'on ressent quand on voit les marches citoyennes pour le climat, vous pensez que ce sont les citoyens qui vont s'approprier les clés et les solutions de l'urgence climatique, on va dire plus vite ou plus efficacement que les pays et leurs dirigeants ?
En tout cas, les citoyens peuvent montrer à leurs dirigeants au niveau local, au niveau national, au niveau européen, qu'ils sont prêts et qu'ils souhaitent ce changement rapide. C'est bien ça aussi l'objectif, je pense, de projets comme celui qu'on a, comme celui de la rue Zéro Déchet. C'est de montrer qu'il y a une attente du public et qu'il faut donc mettre en place les solutions qui permettent de le faire. Voilà.
Et là, pour finir, donc vous le disiez, il faut développer tout ce qui est accessible en proximité, c'est-à-dire la vente en vrac, que le tri soit facile, voilà, et qu'on puisse convertir d'autres gens que dans une rue de Paris, pardon pour le cliché, un peu boboisé.
Oui, ben on le voit dans le sujet, on ne peut pas uniquement travailler avec les habitants, il faut travailler avec les commerçants, avec les entreprises qui sont les commerçants qui sont implantés, parce que par exemple là on voit bien que le fait de réduire le nombre de sacs distribués, réduire le nombre de couverts jetables, réduire le nombre d'emballages jetables qui sont distribués quotidiennement va avoir un énorme impact sur les poubelles de l'arrondissement, les poubelles de la rue, bien entendu. Donc là le fait d'aller voir chaque commerçant pour le sensibiliser au fait que c'est une bonne chose d'accepter les contenants que ramènent les personnes qui souhaitent réduire leurs déchets. C'est-à-dire qu'on puisse se faire servir dans sa propre boîte réutilisable, dans son propre contenant réutilisable. Voilà, ça a fait partie des actions qui ont été mises en œuvre et qui permettent de réduire les déchets.
Merci beaucoup, Flore Berlingen, directrice, je le rappelle, de l'association Zero Waste France. Zero Waste voulant dire zéro déchet. 7h-10.